Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un entretien avec Nathalie Saint-Cricq. Nathalie Saint-Cricq est éditorialiste à France Télévisions. Après le succès de « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » consacré à Georges Clemenceau, Nathalie Saint-Cricq a fait paraître un nouveau roman aux éditions de l'Observatoire intitulé « L'ombre d'un traître ». Nathalie Saint-Cricq revient sur le transfert de 15 corps des martyrs de la résistance ou de la déportation au Mont Valérien. Il s'agit pour elle de revenir sur une... Il veut effectivement réconcilier toute la France résistante en offrant un monument de commémoration. Ce sera le Mont Valérien sur la colline de Suresnes. Et donc à l'automne 1945, les amicales et associations de déportés et de combattants fournissent à Henri Frenay, ministre des prisonniers déportés et réfugiés du gouvernement provisoire de la République, de longues listes de possibles candidats à cet honneur. Et le 29 octobre 1945, dans la salle des drapeaux aux Invalides, eh bien, on va tirer au sort les noms des 15 personnes issues de la résistance, reconnues comme des héros qui reposeront au Mont Valérien. La liste d'ailleurs de ces héros paraît dans Le Figaro et le journal Le Monde du 30 octobre 1945 et c'est effectivement deux journées extrêmement importantes. D'abord le 10 novembre 1945, première cérémonie aux Invalides et puis autre cérémonie le 11 novembre, cette fois-ci à l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile. Je voudrais d'ailleurs simplement citer Nathalie Saint-Cricq dans son roman « L'ombre d'un traître » parlant de Gaulle. « S'il veut rebâtir la nation, il se doit d'offrir aux Français un miroir qui leur renvoie une image gratifiante d'eux-mêmes. Il veut les rendre fiers de ce qu'ils ont fait, surtout quand ils ne l'ont pas fait. » Nathalie Saint-Cricq, enregistrée lors de la séance publique du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon, le 20 mars 2024.
Et c'est aussi parce que les communistes, alors, puisqu'il est en opposition avec les communistes, que les communistes disent, et c'est vrai qu'ils se sont battus énormément après le pacte germano-soviétique quand même, il s'appelle le parti des 75 000 fusillés. Bon. Et lui ne veut pas que la mémoire, que le souvenir, soit capté par les communistes. C'est-à-dire qu'en gros, on ne dise pas qu'en gros, il y a peut-être un type qui est parti le 18 juin pour demander quelque chose en Angleterre, mais que finalement, c'est une péripétie. Donc, il décide d'honorer sa résistance, les siens, et il décide aussi, parce qu'il pense que c'est important, qu'il ne veut pas être simplement une trace, petite trace dans l'histoire, de construire un monument sur lequel il fera écrire « La flamme de la résistance ne s'éteindra jamais » de manière à rester dans l'histoire. Voilà. Donc, il le construit, il demande à son soit construit en 1945, il part du pouvoir. Il y a un communiste aux anciens combattants, je suis pas obsédé par les communistes, hein. Il y a un communiste aux anciens combattants qui arrête tout de suite la construction, et quand il revient en 58, il dit bon ben on va le faire ce monument, ils le construisent et ils l'inaugurent le 18 juin 60, le 18 juin parce que c'est, le 18 juin c'est sa date à lui, et 60 parce que c'est juste au moment où le monument est terminé.
Voilà. Et c'est les 20 ans, en même temps ça commémore les 20 ans de l'appel du 18 Exactement. Juin. Voilà. Et donc dès 45, 15 personnes... Oui. Honorés comme des héros de la résistance, déportés aussi. Tous sont morts dans des conditions tragiques, soit au combat, parfois en Provence, hein, au moment où il y a débarquement en Provence, soit dans les camps de concentration. On est d'accord.
Il demande à son ministre alors ça s'appelle les combattants. Il dit qu'il veut avoir des corps qui représentent un peu toute la communauté. française et métropolitaine et des colonies. Il ne veut pas dégrader, enfin, il ne veut pas des gens trop placés. Et il veut des gens qui illustrent un petit peu toutes les phases qu'il a pu y avoir dans la guerre. C'est-à-dire des gens qui ont fait de la résistance, des gens qui sont partis à Londres, ceux qui sont battus pendant la drôle de guerre, d'autres qui se sont battus au débarquement en Provence. Il y a 2 femmes sur 15. Il n'y a pas de communistes, évidemment, puisqu'ils considèrent que les communistes ils sont déjà à côté. Et c'est fait par un tirage au sort sur une liste. C'est fait un peu en panique. Parce que quand De Gaulle décide quelque chose, il faut que ça aille très vite. Et surtout, il veut que ce soit prêt pour qu'il y ait 2 jours de commémoration intense dans tout Paris et dans toute la France, dans toutes les colonies, le 10 et 11 novembre 1945. C'est-à-dire en réunifiant ce qu'il a appelé, lui, la guerre de 30 ans, c'est 14-18 plus 39-45, c'est-à-dire le succès de toute cette période des Français sur l'Allemagne. Donc, tout ça est fait vite, probablement trop vite. Et je vous laisse continuer.
Alors, ce que j'aimerais que vous expliquiez, Nathalie Saint-Cricq, c'est comment s'opère le choix de ces 15 héroïnes héros.
Alors,
si je vous ai bien lu, en fait, on avait sollicité les amicales, associations d'anciens prisonniers.
Là, si vous voulez, bon, normalement, un certain nombre d'associations de résistants, de déportés, on leur dit de fournir des listes. Il y a des corps qui sont en France, il y a des corps qui sont en Allemagne. Il y a des gens qui ont été fusillés en Allemagne, décapités en Allemagne, morts dans les camps. Enfin bon. Et il doit y avoir un tirage au sort, mais c'est très officiel, un tirage au sort en public. C'est pas du tout un truc qui est fait en douce sous le manteau. Certains s'interrogent quand même à la suite de ce tirage au sort, puisqu'il y a notamment une femme qui est choisie et tirée au sort, qui est l'amie d'Henri Freinet, le ministre, mais qui est une femme absolument admirable, qui a préféré se suicider plutôt que de parler sous la torture. Mais certains disent que le tirage au sort est peut-être parfois un peu arrangé. Il s'agit de Bertie Albrecht. Bon, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait n'importe comment, genre vous allez me trouver un corps là-bas et puis on va faire ça. Les noms sont connus, ce qu'ils ont fait dans leur vie c'est connu, c'est publié dans le Figaro, c'est publié dans le Monde. Les corps partent de 3 portes de Paris avec des chevaux qui tirent des affûts de canon. On s'arrête toutes les 5 minutes pour que les honneurs soient rendus. En cours de route entre les portes de Paris et les Invalides, il y a une messe le soir. Les corps sont exposés. On a demandé à ce que les Invalides soient décorés par les arts décoratifs. Il y a des immenses drapeaux, il y a des catafalques. Toute la nuit, il y a des gens qui se recueillent, les familles viennent. Le lendemain matin, nouveau départ, honneur, Marseillaise, honneur, sonnerie aux morts. Hein. On part, j'y étais pas, mais ils partent au pas de 5 km/h. Tout est millimétré, les boutons de guêtre, la tenue, la vitesse des chevaux et tout. Pour remonter jusqu'aux Champs-Élysées, les 15 corps sont exposés en haut de chacun, en cercle, autour de l'Arc de Triomphe. Cérémonie de nouveau, défilé militaire, prise de parole du général de Gaulle. Bon, je ne vais pas vous faire comme ça, mais pour qu'on comprenne le problème qui se pose après, il faut qu'on sache à quel point ces gens-là ont été honorés dans le 10 et 11 novembre. 45, c'est-à-dire c'est vraiment ceux qui doivent pour l'éternité incarner la résistance et le sursaut de la France face à l'Allemagne. Donc ce sont des gens, leurs familles, De Gaulle va saluer les familles, enfin il y a tout un décorum, il y a des chars, des blindés légers qui descendent jusqu'au mont Valérien, et ces corps sont mis dans une casemate temporaire en attendant que le mont Valérien soit construit. Voilà, on s'arrête là, on est fin novembre, décembre 45. 15 personnes qui sont dans une casemate temporaire et qui attendent que le mont, la construction, le bâtiment soit fini pour faire une entrée solennelle de nouveau. Tout ça, retransmis à la radio les 10 et 11 novembre, toutes les écoles sont fermées, les restaurants sont fermés, les théâtres sont fermés, c'est retransmis, on sonne le glas, on tire des coups de canon, ça existe à l'INA, vous pouvez regarder les images, c'est un truc gigantesque, on en parle dans certaines écoles depuis 2 jours, et il faut sortir dans la rue, manifester son émotion, c'est des consignes qui sont données au préfet, et il ne faut pas avoir de banderole politique, parce que De Gaulle veut en faire un signe de la grande unité de la nation, alors que c'est un peu plus compliqué que ça.
Et d'ailleurs, il y a 2 pages, hein, 170-171, où tout est raconté. Alors là, comment vous vous inspirez, Nathalie Saint-Cricq? Des images de l'INA, ça a été...
Mais attendez, une fois que j'ai... Que
cette histoire... La presse de l'époque a déjà fait des pages...
Il y a des archives incroyables. On est dans un pays où le seul défaut des archives, c'est qu'elles soient, mais c'est peut-être bien, totalement décentralisées. Ça, pas de dossiers qui sont au même endroit. Vous en avez à Metz, vous en avez à Pau, vous en avez à Caen. Mais toutes les cérémonies, j'ai tout retrouvé au service historique des armées, où en gros, jusqu'à la distribution de boissons et de soupes chaudes la nuit, où on veille les corps, puisque c'est le mois de novembre qui fait froid, tout est réglé, c'est-à-dire que la façon dont les militaires doivent arriver, comment ils doivent marcher, la musique qu'on joue, je vous dis, il y a la soupe et les cafés avec des bénévoles qui viennent, qui doivent distribuer, tout est organisé, tout, c'est... alors les cheveux, la façon dont la coiffure des militaires, parce qu'à l'époque il y avait comme il y a toujours, mais c'était extrêmement raide la façon dont on devait être coiffé. Si on avait la barbe, toutes les tenues, les gants qui doivent être portés, la couleur des chevaux, la nuit, c'est fait au crépuscule, parce qu'il faut en plus que pour la retransmission à la télé, il y ait des spahis, c'est-à-dire qu'ils sont avec leur ça, on appelle ça une gandoura, la grande tenue blanche qui sont à cheval avec un flambeau. Donc tout ça est destiné avec le glas, j'imagine. Alors là, ça, on le voit à l'INA, mais on trouve tout. Je trouve, il y a tout. On est un pays très, très, très scrupuleux. J'ai retrouvé toutes les notes de toutes les directions des armées, même 20 fois en 20 exemplaires. J'ai retrouvé les enveloppes de les cartes, les enveloppes dans lesquelles il y avait les cartes pour inviter les familles. J'ai retrouvé. Il y a des tonnes de trucs.
Oui, parce que vous l'écrivez au tout début de votre roman, Nathalie Saint-Cricq. Hein, je vous lis tout ce qui concerne le personnage principal, Robert B. Donc, c'est ce fameux intrus, cette mauvaise distribution. On reviendra sur ce personnage. Et son épouse, Marie-Flavie, c'était vraiment le prénom de l'épouse?
Ah oui. Ah oui, Robert B. Alors, je vais vous dire, en fait, je suis un peu malhonnête, parce que si on regarde sur Internet Marie-Flavie Davio, c'est-à-dire le nom de sa femme, on retrouve le nom du mari. Mais je me suis dit qu'au cas où, comme c'est un nom qui est assez fréquent en Lozère, s'il y avait un enfant, un jeune, une femme, un grand-père, je ne sais qui, si par hasard le livre était lu, alors ça fait déjà beaucoup de si, mais qu'il y ait quelqu'un qui lui dise « Ah ouais, toi t'as un nom, c'était un salaud, ton grand-père, je ne veux pas faire subir ça à qui que ce soit. » Puisque une des thèses aussi du livre, c'est qu'on n'est pas responsable de ses ascendants. Donc j'ai mis B, pour pas qu'on sache son nom, mais le nom de la femme est totalement exact. Les actes de divorce...
Oui. Oui, parce que vous écrivez...
Actes de divorce, je vais les retrouver.
Actes administratifs, lettres officielles, décisions gouvernementales, PV d'audition, jugement des tribunaux allemands.
Tout est
authentique. Hein, vous avez tout.
Ah, oui, je pourrais inventer des trucs. Enfin, si j'avais inventé quelque chose, je n'aurais pas inventé un truc aussi énorme avec De Gaulle. Vous voyez, j'aurais pris une autre histoire. Là, toute la carcasse, elle est tout. Enfin, tout. J'ai même regardé la météo qu'il faisait le 10 et 11 novembre 45 pour voir s'il y avait du vent, pas du vent, s'il faisait chaud. Pour le raconter, parce que quand je vois les images à l'INA, je ne sais pas si je peux savoir s'il pleut ou pas, mais pour avoir un peu quel était le ressenti des gens.
Au début aussi de votre roman, vous écrivez « Je suis tombé, pourrais-je dire, dans l'histoire qui suit par le plus grand des hasards ».
Totalement.
Mais alors, qui en 45 et surtout en 60, au moment où va avoir officiellement lieu le transfert donc des 15 cercueils, cette fois-ci au Mont-Valérien, avec sa crypte Croix de Lorraine en granit rose, qui était au courant de ce cercueil vide au moment où De Gaulle passe les saluer?
Un certain nombre de
hauts fonctionnaires,
le ministre des Anciens Combattants, De Gaulle, le chancelier de l'Ordre de la Libération, et probablement le conservateur du Mont-Valérien. Ouais. Parce que là, pour l'instant, je vous raconte qu'on a mis un type qui ne valait pas le coup là-dedans. Mais c'est pas plus compliqué, c'est que c'est beaucoup plus... déroutant que ça, c'est qu'on s'en rend compte, on le vire, on sait pas comment le virer en douce, si on le vire en douce il faut le remplacer, donc tout ça, que ça ne sorte pas dans les journaux, personne le sait, on prévient la famille, mais on veut pas la prévenir tout de suite, parce que si la famille dit un truc, ça est dans les journaux, donc c'est un truc qui est classifié, c'est un truc qui est caché, on ne doit pas le dire, évidemment que quand on remettra quelqu'un d'autre, il faut le trouver avant, donc pour le trouver, il faut être sûr en plus que celui-là il est plutôt bien. On ne peut pas trop l'honorer, parce que si on l'honore, puisque les noms sont... Si on l'honore, ça fait simplement qu'on en a enlevé un autre. Donc, si vous voulez, le côté est De Gaulle et les gaullistes ne veulent absolument pas que ça débouche sur un... Vous voyez bien, ils font n'importe quoi, résistant, collabo, tout ça, c'est un peu pareil. Voilà, donc ça devient... C'est une histoire qui n'est pas tragique du tout. Enfin, pas du tout, mais qui est juste un truc de banquignol absolu... vraiment accouché dehors et avec des personnalités qui sont très embêtées entre dire la vérité au risque qu'elle vous expose à la figure, ou alors faire comme si on ne savait pas, et en faisant quand même quelque chose qui, au regard de l'histoire et des gens qui sont morts en combattant, est un peu délicat.
Donc, entre 1945 et 1960, aucun média n'est au courant.
Après, j'étais sûre qu'il y aurait un livre, j'étais sûre qu'il allait y avoir quelqu'un jeune.
Non, mais c'est pour souligner l'originalité de ce que vous nous livrez, Nathalie Sakic.
Je trouve ça étrange que personne ne l'ait fait. Enfin, si vous voulez, quand la fille m'a raconté ça, c'est une historienne d'ailleurs qui n'était pas très spécialement plus au fait que ça, parce que je lui dis, on faisait une cérémonie à la télé comme on a le secret pour en faire tous les ans, le 212 8 mai, 414 11 novembre. Et c'était, non, je plaisante, c'était la fois où le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, rentrait, puisque De Gaulle avait dit que le dernier à mourir des compagnons de la Libération, il est mort à 101 ou 102 ans, rentrerait. Et donc on faisait la cérémonie à la télé. Et puis j'avais regardé comment avait été sélectionné, puisque la première question que je me posais, c'était comment on avait choisi les gens. Parce qu'il y a quand même un dosage politique entre les gens d'origine marocaine. Il n'y a pas d'Algériens, il y a Tunisiens, il y a tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire que même dans les colonies, il y a des choses qui ont été choisies, parce qu'en 60, on est déjà... Quand c'est, et il y a encore à cette période, non pas des tensions, mais il y a déjà des tensions avec certaines colonies. Et la fille me dit, la femme qui est une historienne, que shit là, elle me dit, bah, vous savez, oui, on y rentre, mais on en sort. Bon, elle me dit, on en sort, c'est même bizarre de sortir du Mont Valérien. Alors, je savais qu'on pouvait sortir du Panthéon, mais ça, c'est pour des raisons politiques, par exemple. Oui. Mirabeau, il reste un an, parce qu'on apprend que Mirabeau, en fait, était agent double, c'est-à-dire qu'il donnait des informations, il était payé par la royauté, et qu'il fricotait avec les révolutionnaires en même temps. Donc quand il meurt, on le fait remettre au Panthéon, et un an après, on décide, quand on apprend sa traîtrise, on le sort. Même chose pour Marat, qui passe pour un type formidable au début, et après un petit peu pour un sanguinaire, donc on sort Marat, mais ça c'est parce qu'en fonction des époques, on n'a pas les mêmes... le même panthéon, on n'admire pas toujours tout le monde. Et là, je lui dis, mais pourquoi il est sorti? Elle me dit, c'était trompé. Alors je lui dis, mais trompé sur quoi? Elle me dit, mais je pense qu'il n'était pas du tout résistant. Et en fait, au lieu de penser à cette histoire, je pense à la famille. Et je me dis, je m'imagine être une femme, ou une fille, ou une sœur, ou même être un homme, et un matin, on me dit... Alors, il n'y a pas beaucoup de téléphones, donc on m'envoie une lettre et je vois que mon mari, mon frère, mon père, mon fils est à l'honneur de rentrer au Mont Valérien et d'incarner. Et je me dis, on doit être très fier, très honoré. Et je me dis qu'on doit le dire à ses voisins, à sa famille, on doit le dire à tout le monde en le considérant. Et je me dis aussi que quand on reçoit la deuxième lettre, qui est de dire, excusez-nous, on s'est un petit peu trompé, on vous le rend. C'est à la fois pathétique et grotesque.
Et puis c'est la honte.
C'est la honte. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans quelque chose en me disant que c'est effectivement triste. Mais c'est pas un drame. Mais c'est grotesque avant tout. C'est la lettre, parce que j'ai retrouvé aussi la lettre. C'est... ils vont chez elle, ils préfèrent lui dire en vrai, sa femme. Donc, il se déplace, elle répond jamais. Et elle, il laisse un papier en lui disant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous contacter? Et bon, je ne raconte pas la suite.
Nathalie Saint-Cric, à l'instant, Nathalie Saint-Cric, éditorialiste à France Télévisions, enregistrée le 20 mars dernier à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne, pour y présenter son dernier roman, L'ombre d'un traître, paru aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans quelques minutes, je vous propose un premier intermède musical, et on se retrouve juste après, bien évidemment, pour la suite de cette histoire de commémoration et d'inauguration du Mont Valérien le 18 juin 1960 par le général de Gaulle.
Y a trop de pourquoi c'est tendu, seul, joue des poings et des regards. Y a que du stress est dans ta rue, étrange humain sur les trottoirs. Toi, t'es pas fort à la baston, non, tu sais pas trop qui croire. Ouais, la ville est froide comme un glaçon, et dans ta tête c'est le brouillard. Le succès, la win, lire entre les lignes, y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Pensée des filles. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand tu refais bouteille jusqu'à 3. Rien ne bouge dans la déco. Dans un océan de pourquoi. Toi, t'es mené en bateau. T'es que l'ombre de toi-même. Tu cherches un sens à la vie. Ta vie, c'est n'importe quoi. T'as perdu tout ce qui t'anime. Les choix qu'on dessine, la joie et le spleen. Y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, tout va si vite. Quand les pensées défilent. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand tu refais le film, fais vite, fais vite.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous prenez cette émission en cours de route, sachez que nous vous proposons aujourd'hui un échange enregistré en public le 20 mars dernier au Club des écrivains de Bourgogne au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste à France Télévisions, venue présenter son dernier roman intitulé « L'ombre d'un traître » paru aux éditions de l'Observatoire. 15 héros de la France combattante sont choisis dès 1945 pour faire leur entrée solennelle dans la crypte du Mont Valérien, tel que l'a désiré le général de Gaulle. C'est un grand moment d'histoire nationale. Pourtant, dans l'ombre, c'est le branle-bas de combat quelques semaines avant l'inauguration de la crypte du Mont Valérien, prévue pour le 18 juin 1960. Branle-bas de combat. Il semblerait qu'un traître, Robert B., figure parmi les cercueils. On retrouve Nathalie Saint-Cricq, je le rappelle, auteur du roman intitulé « L'ombre d'un traître » paru aux éditions de l'Observatoire. Nathalie Saint-Cricq.
Les déportés, descendants de déportés, rentreront bien plus tard au Mont Valérien. Et qu'on parle pas des Juifs.
Oui, ça vous le précisez.
Il se trouve qu'il y a une
bien.
Femme
oui.
qui est la petite fille du grand rabbin. René Lévy, qui est dans les gens sélectionnés pour aller au Mont Valérien, mais elle n'y est pas, elle n'y est en tant que résistante. Pardon, mais c'est un sujet qui deviendra un sujet 20 ans, 30 ans plus tard. C'est comme la collaboration. Les premiers livres, c'est les livres étrangers, sort 70, vous voyez. Donc je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais c'est un sujet très... surtout en province. Enfin, moi, je viens de province. Et quand en province, on a une mémoire de ce qui s'est passé. L'autre jour, j'étais dans un salon. À Pau, j'ai dit à un couple qui est venu, qui avait un certain âge, et il y a la femme et l'homme qui s'assoient, et qui me disent « Ah, on n'était pas dans le même camp, sa famille et la mienne. » Alors, je dis « On ne va peut-être pas creuser non plus. » Et il a commencé à me raconter que le père de sa femme était milicien, que son père à lui était dans le maquis. Enfin, c'est une mémoire qui n'est pas encore... La guerre de 14, ça va assez loin, et en plus la guerre de 14, tout le monde s'est battu, il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas des trucs compliqués. Mais c'est une mémoire qui est très... faut y aller avec des gants.
Alors certes, il faut y aller avec des gants, puisque effectivement, il y a une erreur de casting parmi les 15 cercueils qui doivent faire leur entrée officielle dans la crypte du Mont Valérien le 18 juin 1960. Et en fait, Nathalie Saint-Cricq, est-on sûr et certain que la presse de l'époque n'a vraiment jamais été informée de cette erreur de casting parmi les 15 héros sélectionnés pour rendre hommage aux combattants et résistants de la Seconde Guerre mondiale? Je ne parle pas de la division gaulliste, mais je parle... en fait, de la presse écrite, par exemple, le journal François, pour lequel travaille votre héros.
François, c'était pas non plus un endroit où on disait tout ce qu'on voulait. Hein. L'humanité, ils avaient intérêt à ce que tout le monde se taise pour maintenir... Ils avaient fait un deal avec avec les gaullistes. Il y avait un deal sur le nombre de fusils. Il y a un truc très très drôle, quand, si vous allez un jour au Mont-Valérien, donc il y a la fameuse clairière où on a, dont on a reparlé au moment de Manouchian. Et vous avez une stèle qui est dans cette clairière, ont été fusillés 4500 prisonniers qui se sont battus pour la France. Bon. Le guide, en général, fait toujours son petit effet. Le guide arrive, il y a une troupe de gens qui est derrière, et il arrive et il dit le nombre, les gens qui ont été fusillés dans cette clairière, qui a été majoritairement des communistes, sont au chiffre, sont du nombre de 1003. Alors à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un dans le public qui dit monsieur, monsieur, pourquoi vous avez mis 4005? Et il dit bah, en fait, c'est une négociation entre le Parti communiste et les gaullistes sur le chiffre, pour quand même pas trop minorer les communistes. Pas trop en rajouter, donc ils étaient arrivés à 7000, puis ils sont tombés à 4500, et quand vous regardez dans les livres maintenant les recensions qui ont été faites, c'est 1003. Voilà. Donc, faut aussi, c'est ce qui est amusant. Enfin, ce qui est amusant. Puis après, je vais parler des trucs un peu drôles, hein, parce que ce qui est quand même très amusant, c'est l'enjeu du roman national, du récit national. C'est-à-dire comment, comment c'est une arme politique de nous raconter les choses d'une certaine façon, ou de ne pas nous les raconter, et comment on peut. Moi, je ne suis pas du tout pour la déconstruction de l'histoire, mais je trouve ça très intéressant de voir que, en quoi c'est une arme pour faire passer des idées à un certain nombre de gens. Je me tais.
Non, non, mais c'est tout à fait intéressant. Après, vous, moi, j'avais entendu dire que le Parti communiste est le parti des 100 000 fusillés.
Oui, alors vous
prenez. Alors certains ont dit que c'est une imposture.
Totalement, mais de Gaulle l'écrit. De Gaulle l'écrit, c'est dans, au début de ses mémoires de guerre, ou mémoires d'espoir, je ne me souviens plus. Comment les tomes sont appelés, où il dit un nombre hautement fantaisiste. Et si vous regardez maintenant, dans tous les travaux, c'est de la propagande communiste. C'était une façon de dire, c'est nous qui avons libéré le pays, parce que c'était un enjeu de prise du pouvoir. Mais de même que le général de Gaulle a boudé les cérémonies du débarquement en Normandie et tout, il n'allait qu'au débarquement en Provence, parce que en Provence, c'était des Français. Et qui considérait que les alliés, bon, ne voulaient pas trop mettre le rôle des alliés en avant. Donc tout ça, c'est des petites manipulations, pas graves, mais c'est aussi la façon dont chacun construit son image, comme on se construit sa propre statue de son vivant en omettant un certain nombre de choses.
Alors parlons un peu du héros, puisque, comme Bernard l'a dit, il y a un jeune, il est très jeune, il a 20 ans, votre
même
journaliste
pas,
détective,
même pas,
il est né en 41. Oui. 41, hein. Il est né en 41. Et c'est important aussi parce que lui, il a un passé à découvrir, ce jeune homme. Il y a un mystère, c'est un enfant.
Pas leur dire.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que en 1960...
Il est orphelin.
Voilà. En 1900... Enfin... Oui, il est orphelin.
Il a été élevé
dans... Sa maman est morte jeune, voilà, mais sa maman l'a confié à un orphelinat catholique.
Ouais.
Parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper.
Exactement. Voilà. Non, mais attendez,
moi je ne
peux pas
savoir. Hein.
Non, mais attendez, vous ne pouvez pas savoir. L'autre jour, j'ai fait une émission. Ils me faisaient ça, comme ça, à la radio, parce que je commençais à être partie. Je racontais la fin. Donc, c'est pour ça que je fais attention. Maintenant, je me maîtrise.
Alors, il se prénomme Désiré.
Oui.
Et son patronyme, c'est Février.
Désiré, parce qu'il ne l'était pas, et que quelquefois, dans les orphelinats, dans le temps, on donnait bien-aimé, bien, on trouvait des mots qui étaient gentils pour les enfants. Et souvent, quand on n'avait pas de patronyme, on prenait le mois de naissance. Et lui, c'est donc comme ça qu'il se présente. Et si j'ai mis un journaliste, c'est parce que, pour pas que ce soit en kikinant le livre, parce que c'est mon obsession, et que je voulais le faire sous forme d'un policier, comme un roman policier historique, je me suis dit, je ne peux pas mettre un détective, parce que qui paierait le détective pour faire des recherches, il n'y a aucune raison.
Oui.
Je ne peux pas mettre un policier, parce que le policier se heurterait au pouvoir en place. Donc je me suis dit, je vais mettre un gamin.
Fougueux.
Oui, qui est au service compta de François, parce que le pauvre, on a raté ses études, on lui a forcé parce qu'il était orphelin. Et que dans cet orphelinat, et j'ai retrouvé un orphelin de l'époque qui m'a raconté la façon dont on mangeait, dont les choses se passaient, puisque l'orphelinat se trouve chez mes parents dans ma ville à Tours. Donc j'ai retrouvé par copain d'avant quelqu'un qui était contemporain de cet orphelinat, dont je savais que c'était un orphelinat très particulier. Et donc, il arrive et il tombe sur cette histoire et il enquête. Et je me suis dit, cette façon de l'écrire avec un jeune homme qui a une copine, qui a un ami, voilà, ça va rendre les choses plus agréables parce qu'il a une histoire d'amour, parce qu'il vit avec un chat qui parle, parce qu'il est pauvre, mais que le patron du bar, le Balto, est communiste et qu'il passe son temps à parler avec, sous forme de proverbe. Voilà, je me suis dit, pour pas que ce soit casse-pied, on va pas faire un livre d'histoire, on va faire un truc avec. Et l'enquête que moi-même j'ai faite, en trouvant des archives, c'est lui qui va la faire, en allant aux archives, voilà, et avec quelques déboires aussi.
Et de plus, ce Désiré Février, déjà à l'orphelinat, on l'appelle chef Lafouine, hein, c'est ça. Donc, il est prédisposé pour mettre son museau, son nez, dans des affaires de cadavres et de morts. C'est ce que lui dit d'ailleurs le rédacteur en chef.
Oui, parce que c'est, en fait, c'est un môme qui, comme celui que j'ai rencontré, qui n'est plus un môme qu'à 85 ans, et qui me dit que c'était un caïd. C'est-à-dire qu'il me dit, à cet endroit-là, il fallait être un caïd pour tenir. Donc il est Lafouine, c'est-à-dire qu'il a plein de secrets sur les curés pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Il sait où sont planquées les clés pour les réserves parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et tout dans cet orphelinat, à l'époque, tout le monde a un surnom de bête. Donc, et puis c'est une sorte de... C'est un petit vengeur, c'est-à-dire c'est celui qui venge ses copains, les ceux qui sont tout mecs, tout palichons, tout... Voilà, donc c'est un... Et je vois très bien ça, la tête qu'il a.
En fait, il doit avoir des petites boucles blondes, d'après la description.
Il est blond,
hein, c'est
oui,
ça.
Il est
puis il doit avoir un petit fessier un peu...
Il est un peu dodu de
l'épée. Il est un peu dodu du cul, hein, là, pour parler familièrement.
Je me suis amusée, parce que pour une fois que je fais pas un truc... Alors même Clémenceau, je peux pas rire avec Clémenceau, parce que j'aurais tous les historiens qui m'auraient étripé. Là, au moins dans la description physique de sa copine Colette, de Raymond, sa voisine... de Maurice, le patron du Balto. Là, je dis ça parce que je vois l'immeuble où chacun est. J'ai pu m'amuser un peu sur les descriptions. Parce que, et puis alors le bouquet étant le chat et le serin qui parlent, mais pas beaucoup. C'est quelque chose qui a beaucoup rebuté mon mari. Qui m'a demandé si j'étais un peu étrange. Et à un moment donné, parce que je lui faisais lire pour avoir son avis, et un jour il me dit, t'as dû faire une erreur, là, t'as dû travailler trop tard. Parce que je dis, alors le chat s'appelle Chabouk, parce qu'il a des poils par-dessus les griffes qui font qu'il a comme des pattes de bouc. D'ailleurs, c'est le vrai nom de mon chat et celui de mon frère. On en a deux, c'est Chabouk 1, Chabouk 2. Et il me dit, mais pourquoi tu dis que le chat, il est Fab de la Fontaine? Tu t'es trompé, c'est quelqu'un, c'est pas un chat qui est Fab de la Fontaine. Je lui dis, eh bien si, pour que ce soit un petit peu plus fantaisiste et que, voilà, on a le droit d'avoir des licences pour faire quelque chose qui soit un peu moins enquiquinant, moins ennuyé, moins morne. Voilà.
Et puis vous nous montrez le Chabouk en train de déguster une souris encore vivante et il l'attaque par le museau, je crois.
Oui,
hein, c'est
exactement.
Ça.
Hein. Et il faut qu'elle fasse 37. C'est la, parce que ça, c'est mon vétérinaire qui m'a dit que la température à laquelle les chats préféraient manger de la viande, c'est la température d'une souris qui vient de mourir. C'est-à-dire que. Mais attendez, je prends tout ce que j'entends autour de moi et je le recycle là où ça me fait rire.
Alors, notre Désiré Février, donc il a une petite copine, Colette, en plus, comme par hasard. Elle travaille au ministère des anciens combattants. C'est la chouchoute du ministre de l'époque qui s'appelle... J'ai oublié.
Triboulet.
Merci beaucoup. Voilà, c'est sa petite chouchoute. Donc, elle entend beaucoup de choses et elle rapporte ça à notre Désiré Février qui, évidemment, ne pense qu'à cette histoire de cercueil...
Si vous voulez, il va s'en sortir. On lui a dit... Il était très brillant à l'orphelinat, très bon en français, très bon en maths. Mais en gros, à cette époque-là, on les destine soit... à la prêtrise, soit à une carrière ouvrière, c'est-à-dire qu'ils arrêtent l'école. Même s'ils sont super talentueux, ils n'ont pas le droit. Et lui, il est frustré un peu de là où il est, à la compta, parce qu'il rêve de mieux, il rêve de plus. Et il a toujours rêvé, sa mère lui a toujours inculqué le « même si c'est dur, même si tu viens de là, même si tout ça ». Elle lui a donné un truc de force et de... Voilà, quelque chose qui fait qu'il en veut, il râle pas, il se prend des claques, mais il continue. Il est un peu naïf parce qu'il est jeune. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui est très... qui a une espèce de petit jeune des années 60, très...
Un petit côté Tintin, un peu.
Oui, Tintin sans le côté un peu niais. Non, je dis pas que Tintin est niais, ne vous méprenez pas. C'est qu'il sera quand même confronté au service gaulliste, au sac et à un certain nombre de choses. Donc c'est un peu plus corsé que Tintin. Mais c'est un type qui a des bons sentiments, qui est un mec bien, quoi. Voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup.
Ah, il n'y a pas que... Il y a sa voisine du dessous, la bretonne, Madame Le Goff, qui l'adore. Il y a une scène où elle le met sur sa poitrine alors qu'elle a juste un peignoir léger. C'est tout juste si elle ne veut pas encore... le choper, le petit gars.
Non, mais elle n'est pas comme ça. Non, mais, elle a perdu
mais elle lui fait à manger, elle est terriblement
mais
généreuse.
Non, elle, voilà, parce qu'il n'a pas un rond, puis il faut qu'il nourrisse son chat un petit peu. Elle est en cheville avec un tripied, et c'est une femme qui a perdu son mari à la guerre de 14 et son fils à la guerre de 40, et qui est une femme très généreuse.
Et elle est gaulliste, alors
si vous... Elle est gaulliste.
Elle est folle de
Gaulle. Elle a trois photos sur son buffet. Elle a son mari, quel lapsus. Son mari, son fils et le général. De toute façon, le général a toujours raison avec elle. Elle est bretonne, elle est têtue, et c'est vrai. Il vient d'avoir un gros problème, il est secoué, et elle le prend dans ses bras. Mais ce n'est pas une cougarde, Madame Le Goff. Madame Le Goff pour des bigoudis la nuit et de la crème qui a tendance un peu à graisser et à coller. Donc Madame Le Goff n'est pas... voilà. Mais je me suis dit... J'ai une jeune femme, j'ai une dame un peu plus âgée. Il faut que ce soit qu'il y ait un peu de tout. Il y a un univers autour de lui.
Absolument.
C'est pour ça que j'ai mis le chat, le serin. Madame Le Goff lui donne à manger. Puis Madame Le Goff, qui a perdu son mari il y a longtemps, dit au chat à un moment donné, t'es presque aussi bien qu'un mari.
Non, puis c'est aussi...
Sans les ennuis.
Non, puis c'est très bien d'avoir choisi cette femme du peuple, dont les deux hommes, le mari et le fils, sont morts dans des guerres. C'est aussi quand même une France qui n'a pas cicatrisé de ces deux guerres, ce qui amène un peu de l'eau au moulin.
Son mari et son fils à 20 ans, en l'espace, parce que maintenant on dit l'esprit de l'entre-deux-guerres, le pacifisme, il faut quand même voir ce dont sortaient les gens de 14-18, c'est quand même très 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 peu de temps.
Oui, puis là on est en 60, c'est le début des événements d'Algérie.
Avec quelque chose qui pèse comme un couvercle sur la société. Et qui fait que peut-être aussi, l'histoire n'est pas sortie parce que c'était pas le sujet à l'époque, vous voyez. On était en plein, elle avait commencé assez plus longtemps, bien plus longtemps avant, la guerre d'Algérie, mais en 60, 61 après, ça se précise, et je pense que c'était pas, aller sortir des histoires de la guerre de 40, du mandat aérien, c'était pas le sujet du jour, dans ces années-là, je pense.
Alors si Madame Le Goff est une amoureuse de Gaulle, dont elle a découpé la photo dans Jour de France.
Ah oui, David. C'est aux photos directes.
L'actualité heureuse, ça aussi.
Exactement, elle l'a encadré.
Et puis ce journal de François, pour lequel notre petit détective journaliste travaille, normalement à la compta, mais effectivement, il envisage une carrière de journaliste, c'est un quotidien qui tire à 1 million d'exemplaires.
À l'époque, hein. C'est énorme. Absolument, et c'est juste... C'est la grande période des quotidiens. Quand on voit maintenant que vous avez, quand c'est 300 000 exemplaires, ils sont au champagne, des journaux comme Libé, alors Libé c'est très particulier, mais il doit être à 25 000, que les grands titres de presse de province atteignent 300 000 aussi. Mais là, les tirages. Et 60, c'est juste au moment où on vient de finir les crieurs de journaux. Les crieurs des journaux, ça va jusqu'à 57-58 avec le. Mais si vous regardez la diffusion des journaux, par exemple, le J'accuse de Zola, édité par Clémenceau.
C'est lui qui a même trouvé le titre.
C'est lui qui a barré lettre à M. le Président de la République pour mettre J'accuse, en se disant qu'il y avait moins de Français, il y avait moins de gens, en se disant que les gens étaient plus illettrés au moment 1890, 95, 1900, enfin plus illettrés, moins lecteurs. Alors, ça, les diffusions étaient monstrueuses. Il y avait des journaux qui étaient plus d'un million. C'est-à-dire que le journal était un. Comment dire, c'est une habitude, enfin pas une habitude, mais c'est parti de la vie des gens. Et là, maintenant...
Alors le François, c'était une émanation du Paris Soir de l'occupation, enfin d'avant la guerre, je crois. Hein.
Mais repris en main et plutôt fidèle au général.
Alors, il y a, forcément, il faut un communiste dans ce roman, c'est celui qui tient le bar, le patron du Balto, donc c'est Maurice, la cinquantaine. Alors lui, c'est quand même un ancien maquisard, c'est un communiste. Oui. Le chien s'appelle Brejnev, le caniche s'appelle Brejnev. Et c'est vrai que, par exemple, Jules Roy avait un chat, je crois, qui s'appelait Mao.
Eh bien, très bien.
Mais Brejnev, c'est pas mal pour un caniche. Alors, il déteste De Gaulle, ce communiste. Oui. Et vous l'avez dit, ce Maurice, il est très touchant. Parce que C'est un type d'homme comme il n'en existe plus aujourd'hui.
Il est communiste pour...
Il est à la fois communiste et très gentil.
Pour des raisons, non mais... Il refuse de voir ce qui... Bah, de toute façon, en 60, on en est loin de dénoncer ce qui s'est passé à l'Est. Le procès Kravchenko lui crache à la figure quand il dit qu'il y a des camps ou qu'il y a du goulag. Mais Maurice, c'est quelqu'un qui est partageux, qui aide Désiré, parce que Désiré n'a pas beaucoup d'argent, qui est communiste par générosité. Et qui aime bien, parce que c'est une petite coquetterie, voir à la télé les défilés, parce qu'ils trouvent que les mecs en costume avec les toques en furus...
Ah oui, les défilés communistes.
Communistes, ils trouvent que là, c'est vraiment un bain. Et il ne veut pas voir la vérité, c'est-à-dire que il est là justement au moment où il y a la déstalinisation, et il se fait la tête des dirigeants, c'est-à-dire qu'il s'est fait une moustache quand il y avait Staline, après il se rase les cheveux pour ressembler à Khrouchtchev, mais tout ça c'est mes inventions, hein, c'est pour rire.
Mais c'est très bien. Non, mais c'est magnifique, cette petite vie du quartier, parce que ce sont des soutiens, ils aident, ils épaulent notre petit Désiré qui est bien seul et qui est menacé quand même.
Et puis ils écoutent de la musique, ça me permet de faire référence à la musique de l'époque.
Alors, salade de fruits, ça date de 59.
Oui.
Alors, ça, Désiré Février, ils n'en peuvent plus, la salade de fruits.
C'est donc c'est gnagnant. Et lui, c'est le début du rock'n'roll.
C'est Johnny Hallyday, d'ailleurs. Du tonique, du viril à faire twister les morts.
Excusez-moi, j'ai écrit, je ne veux pas. Je suis sortie de Clémenceau dignement, et dans celui-là, j'ai envie de me marrer un peu plus.
Non, mais c'est vrai, vous faites voilà. Renaître les années 60. Alors, moi, j'ai relevé des éléments. Bon, il y a salade de fruits que Maurice, hein, du Balto, adore.
Mais surtout pour emmerder Désiré, il le met tous les matins sur son TEPAS.
Sur son tourne-disque-TEPAS, c'est ça, le tourne-disque-TEPAS. Il y a Elvis Presley qui fait ses débuts, le petit Johnny Hallyday qui débute aussi en 60. C'est la RTF, avec le journaliste Michel Droit, bon, effectivement.
Ah, mais les commentaires de Michel Droit, je vous conseille, hein, si vous allez sur l'INA. C'est « Et le général le reprend son souffle et arrive dans un étang. Hein, c'est ce moment de grande dignité où tous les Français sont à l'écoute du peuple. » Mais c'est... Bon, voilà. Donc, c'est marrant, mais c'était aussi une époque. Hein, mais c'est une époque quand même où les médias sont... Mais ce qui n'est pas totalement étonnant. Et mon Désiré... Alors non, mon Balto, parce que mon Maurice... Il a une spécificité, c'est qu'il parle quasiment que par proverbe. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire « bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée » dans tous les actes de la vie, et il exaspère pas mal les gens, parce que oui, c'est son dictionnaire des citations à lui, parce que c'est un mec d'origine très modeste, et qui a un petit complexe. D'être tenant patron de bar alors qu'il aurait voulu plus aussi, mais lui n'a pas pu faire des études. Donc sa philosophie à lui, c'est il faut garder une poire pour la soif.
C'est ça. C'est pas de la tarte, les goûts et les couleurs, pas y aller avec le dos de la cuillère. Il y en a plein.
J'ai recherché des expressions aussi qui étaient plus usitées dans le temps, dans les années 60, et les mots qu'on employait un peu, c'est-à-dire qu'on disait pas ton gilet, on disait ton paletot, mais ton paletot. Il y avait toute une... voilà. Il y avait... Les trépieds existaient, alors que maintenant... voilà. Donc j'ai essayé de retrouver avec les gens autour de moi, en disant, va voir, parle à ta grand-mère, à ton grand-père, quels sont les termes qu'on utilisait. Ou ce que moi, j'essayais de me souvenir, ce que ma grand-mère disait aussi. Ou mon grand-père.
L'éditorialiste de France Télévisions et romancière Nathalie Saint-Cricq, enregistrée le 20 mars dernier au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne, pour venir présenter son dernier roman, « L'ombre d'un traître », paru aux éditions de l'Observatoire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire, un nouvel intermède musical, et on se retrouve juste après.
Encore le futur pourtant, mais je ne ferai pas partie des...
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous nous rejoignez, sachez que nous vous proposons aujourd'hui un entretien enregistré en public le 20 mars dernier avec Nathalie Saint-Cricq, qui a été l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon. Séance au cours de laquelle l'éditorialiste de France Télévisions est venu présenter son dernier roman intitulé « L'ombre d'un prêtre » paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, dans ce roman qu'elle a fait paraître, roman qui a d'ailleurs des allures d'un roman policier plein d'humour, Nathalie Saint-Cricq nous raconte une histoire vraie, inédite jusque-là, de l'affaire qui secoua la France des années 60 et les arcanes du pouvoir gaulliste, à savoir effectivement ce traître qui aurait été sélectionné par mégarde, par erreur, parmi les 15 cercueils qui doivent entrer officiellement dans la crypte du Mont Valérien au cours d'une inauguration officielle et hautement médiatisée par le pouvoir gaulliste le 18 juin 1960. Dans le roman de Nathalie Saint-Cricq apparaît un autre personnage qui s'appelle Henri de Prévoté, un homme de 70 ans, qui est marié, qui est un ancien résistant, qui appartient à l'ordre très fermé des Compagnons de la Libération et qui a bien connu d'ailleurs Pierre Brossolette. Cet homme de la maturité, qui est un homme mystérieux, peut-être appartient-il à des pouvoirs secrets, va épauler le héros, le jeune Désiré Février, qu'il a d'ailleurs accompagné tout au long de son enfance lorsqu'il était orphelin et qu'il le recevait dans sa famille, notamment pour les repas de Noël. Nathalie Saint-Cricq.
Ça se faisait, c'est-à-dire que ça c'est aussi, c'est pas un truc que j'ai inventé, parce que dans cet orphelinat Verdier, dans lequel j'ai juste changé le nom du prêtre, de l'abbé qui dirigeait tout, parce qu'il est mort il y a 20 ans, puisqu'il a de la famille. Je parle pas de descendance directe, mais s'il y a des gens, je tiens pas à avoir un procès. Donc il a un nom d'arbre fruitier, donc je l'ai appelé Poirier, je pense, là.
Oui.
En fait, c'est un autre arbre fruitier, son nom. Mais bon, je me suis dit comme ça, j'aurais pas d'emmerdement. Et qu'est-ce que je racontais comme ânerie encore? Oui, là, il y avait eu une époque, et ça c'est ce que m'ont raconté les orphelins que j'ai vus, où on proposait aux certaines familles, ou généreuses ou bourgeoises, enfin, ou celles qui faisaient leurs bonnes œuvres, ou celles qui avaient du cœur, de prendre à Noël ou pour le 31 de prendre un orphelin chez eux. Et il y avait deux catégories, en fait. Il y avait les catégories de ceux qui disaient attendez, c'est affreux, je vais pas être pris pour... en gros, je goûte à tout ce que je n'ai pas, une famille, une bonne nourriture, oui, des bonnes belles conditions, des cadeaux, et tout d'un coup on me le retire. Et quelqu'un comme Désiré qui se disait, parce que c'est assez dans son tempérament, c'est toujours bon à prendre. Et lui, il fait connaissance justement de Henri de Prévoté quand il est petit. Et Henri le suivra tout au long de sa vie,
Jusqu'à l'épauler, lui voilà, donner des informations.
Oui, mais... parce que c'est un grand résistant qui est du coin et qui a le bras très long. C'est un compagnon de la Libération, donc lui...
qui a côtoyé Pierre Brossolette.
Absolument.
Alors, je reviens aussi tout de même sur les débuts de la profession que votre jeune journaliste reporter envisage d'embrasser. Évidemment, on est dans les années 60. Alors, évidemment, on est dans la fiction par rapport à cette affaire, puisqu'on sait bien, vous nous l'avez dit, qu'aucun média n'était informé de ce mauvais choix qui est involontaire. Hein, c'est une erreur. Ça,
oui. Bon, voilà. Et après, le problème se pose de savoir si il faut mieux s'asseoir sur l'erreur pour pas faire de scandale, ou si. Et il y a d'ailleurs une instruction, enfin un jury d'honneur qui est fait, et il y a le rapporteur du jury d'honneur qui envoie lettre au ministère, parce qu'il sera radié de mort pour la France, il sera radié de la médaille de la résistance, il sera... Bon.
Mais il s'est bien combattu quand même en 39.
Oui. Ouais. Dans la guerre, enfin la guerre classique. Si j'ose dire, oui, mais attendez, c'est pas... les choses sont... Mais là, c'est mon Valérien, oui. C'est quand même... c'est quand même le niveau au-dessus.
Notre Désiré Février, il soumet cette idée d'enquête à son rédacteur en chef, qui d'ailleurs est un ancien militaire et qui, finalement, gère ses journalistes un peu au garde-à-vous. Oui. Et il lui dit, tu veux jouer le Maigret, mais tu es à peine au niveau de Spirou.
Exactement.
Ce que je voulais simplement vous demander, Nathalie Saint-Cricq, c'est qu'à un moment, le rédacteur en chef lui dit, on t'appelait la fouine quand tu étais orphelin. Je cite ce que là on est dans le roman, le rédacteur en chef dit au jeune Désiré Février pour le décourager et surtout lui dire maintenant tu m'embêtes plus avec tes histoires de cadavres, on arrête, c'est fini, tes histoires de mort. Bon, il y a
je veux pas de sous-papier dans le
journal. Il y a l'histoire de la femme au pied coupé, ça c'est une histoire, c'est un fait divers authentique.
Non.
Mais c'était drôle. Ça saucissonne beaucoup, il y a un petit côté frère Jean les entomeurs chez vous même hein.
Non, mais il y en a une autre que je voulais mettre et puis j'ai arrêté, c'est la dépeceuse de la goutte d'or. C'est une histoire vraie qui s'est passée au début du siècle. C'est une femme. On commence à avoir des photos énormes, immondes, qui dépeçaient les enfants.
Ah bah. Et alors,
un petit feu pour les faits divers.
Oui. Et d'ailleurs, donc, le rédacteur en chef de François dit à Désiré Février, sache qu'au ministère, à l'Élysée, les fouines, on les saigne, on les égorge pour les faire taire. Alors tu laisses tomber ton complot du 18 juin, tes cadavres qui disparaissent et autres élucubrations. Supposons, si en 1960, un journaliste, que le pouvoir gaulliste ait eu connaissance que quelqu'un était prêt à sortir cette information, est-ce que ces méthodes aurait pu être utilisé par le pouvoir gaulliste.
Je pense que les méthodes...
Ou peut-être d'autres partis politiques.
Les méthodes du pouvoir gaulliste, c'est-à-dire la face un peu cachée, puisque tout le monde de Gaulle est toujours... ce qui est totalement justifié, mais tout ce qui est la période du sac. C'est-à-dire cette espèce de mélange de gens qui étaient fidèles au général et d'autres qui en rajoutaient. C'est des gens qui étaient mis dans le banditisme, mis dans la...
Alors est-ce que vous pouvez revenir sur ce service d'action civique,
civique, en fait, c'est des... une espèce de police secrète qui était au service de la cause gaulliste et dans laquelle il y avait des anciens truands qui avaient aussi été résistants pour certains, des gens qui ont profité pour avoir raflé pas mal d'archives pour faire chanter un certain nombre de personnages. Donc c'était douteux. Alors c'est vrai qu'ils pouvaient, et au cours du temps ça s'est totalement dégradé, c'est-à-dire que quand De Gaulle est parti, après le sac, c'est juste devenu du grand banditisme. Et c'est vrai qu'on peut imaginer à cette époque que les trucs d'intimidation, c'est-à-dire d'aller chercher quelqu'un, lui foutre son appartement totalement sans dessus-dessous, et les trucs de menace, c'était des méthodes, sans hésitation. Avec probablement aussi, il y a quand même des gens qui ont disparu, vous voyez. Ouais, mais disparu. Bon, c'était pas mon sujet, et je connais pas suffisamment le fonctionnement du sac pour avoir creusé ça. Mais il est totalement plausible que c'est été verrouillé par le haut, c'est-à-dire avec le directeur du journal, le rédacteur en chef, et que c'est été verrouillé par le bas avec quelques méthodes. En gros, on peut tomber facilement dans la Seine, ce qu'on dit d'ailleurs, ce qu'on dit à Colette en disant « un malheur est si vite arrivé ».
C'était Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste à France Télévisions, auteure du roman « L'ombre d'un traître » toujours disponible en librairie aux éditions de l'Observatoire. Un entretien enregistré en public le 20 mars dernier au salon Napoléon III du Grand Hôtel de la Cloche dans le cadre du Club des écrivains de Bourgogne. Si vous avez manqué cette émission, bien évidemment, vous connaissez ce qu'il faut faire, tout simplement via Internet, vous vous rendez sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Avant de vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine pascal, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 6 avril, même endroit, même heure, bien sûr sur Radion. Nous serons en compagnie de Francis Navarre. Francis Navarre qui est né à Paris, au pied de la butte Montmartre d'ailleurs, qui vit dans les hauts de Ménilmontant et qui a une maison secondaire dans le Vézelien. Francis Navarre est charpentier, mais il est aussi écrivain. En 2021, aux éditions Le Dilettante, il a fait paraître un premier ouvrage intitulé « De l'Hexagone considéré comme un exotisme », mais nous le recevrons samedi prochain pour « Jours ouvrés », paru au début du mois de mars de cette année 2024, toujours aux éditions Le Dilettante, des textes dans lesquels Francis Navarre revient sur sa formation de charpentier, la passion qu'il a des matières, du bois et de ses odeurs, du travail bien fait. Et puis, il partage dans ce texte ses expériences à l'étranger. Il est allé notamment aux États-Unis, mais aussi dans les années 80, en Allemagne de l'Est, dans la RDA de Erich Honecker. L'occasion de faire le point sur les ambiances, sur les chantiers, sur cette main-d'œuvre étrangère, souvent embauchée au black. En tout cas, un bel échange sur l'artisanat, l'amour du métier, l'amour du travail bien fait, de la matière. C'est au programme de Wagon Livre, samedi prochain, 6 avril à 11h, avec Francis Navarre. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Je rappelle que la Maison Colette à Saint-Sauveur en Puisaye dans l'Yonne rouvre dimanche prochain. Et je rappelle que le 6 avril, dans une semaine, ce sera à Autun, la fête du livre. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier de votre écoute fidèle. Au revoir et à samedi prochain.